Arrivait-il que dans les journaux censurés, les rédacteurs arrivent à faire passer des infos anti-nazis?
Je le pense. Je n'ai pas d'écrit, mais certains ont fait preuve de beaucoup d'ingéniosité pour faire passer des informations. Je me souviens avoir rencontré deux messieurs qui diffusaient un journal clandestin qui s'appelait La Lanterne. Et on se servait des journaux qui étaient contrôlés et on mettait d'autres lignes avec. Oui, c'était trouver des moyens comme ça pour donner un autre sens à l'écrit.
Croyait-on à la presse contrôlée?
Ben, ça dépend quel esprit critique, quelles sont tes connaissances d'avant. Donc il y a certains qui ont toujours cru que ce qui était écrit dans la presse était vrai. Ce qui était dit à la radio officielle était vrai. Parce que ben, dans leur tête, ce qui était écrit ne pouvait pas être faux. Ce qui était dit à la radio ne pouvait pas être faux. On ne pouvait pas leur mentir.
Merci, nous laissons la place à d'autres camarades qui vont vous poser des questions sur la presse résistante.
Bonjour Madame Texier,
bonjour.
Nous sommes le deuxième groupe qui vont vous poser des questions par rapport à la résistance et la presse résistante.
Comment les résistants se ravitaillaient-ils en encre et en papier?
Alors, je voudrais revenir sur la résistance. Le premier acte de résistance se trouve dans les écrits. Donc, il faut penser qu'avec des mots, on peut permettre à des concitoyens d'entrer en résistance, de faire un autre cheminement. Très tôt, dès 1939, il y a des poètes qui ont écrit des textes. Il y a des tracts dans les entreprises, il y a des journaux clandestins, et naturellement la radio qui est à Londres. Alors, le papier, en 1939, 40, 41, n'avait pas la même place que maintenant. C'était très important, le papier. Il y avait en moins grande quantité. Quand on parle de presse à résistance, c'est une presse clandestine. Donc, pour se fournir l'encre et le papier, ce n'étaient pas les mêmes cheminements que pour les journaux autorisés, qui, eux, recevaient un quota de papier décidé par les Allemands. Donc, récupérer du papier, c'était une chose très importante. Où trouvait-on le plus de papier? C'était dans les imprimeries. C'était soit le fait du responsable de l'entreprise, soit le fait de ceux qui travaillaient et qui récupéraient le moindre morceau de papier. Et c'était se débrouiller pour avoir de l'encre aussi. Matériellement, il fallait ça. Et puis, il fallait, au départ, avoir l'idée de confectionner un écrit et avoir les moyens de le faire.
Où les résistants se cachaient-ils pour imprimer les informations?
Alors, il faut prendre tout un cheminement. L'impression, c'est un moment. Hein. Donc, il y a d'abord la confection, comme on fait un écrit. Il y a l'impression. Le mot impression n'est peut-être pas juste, selon les moyens techniques qu'on utilise. Et puis, il y a un autre moyen, un autre morceau très important, qui est la diffusion. Parce que quand on fait un écrit clandestin, l'objectif, c'est le diffuser. Et la diffusion était très difficile. Elle ne pouvait pas se faire au plein jour comme ça. Il fallait être très habile, bien connaître à qui on remettait, que ce ne soit pas quelqu'un qui vous dénonce après. Mais pour venir à votre question, l'impression. On avait plusieurs moyens techniques pour reproduire. Je préférais presque le mot « reproduire un écrit ». L'impression, c'est pour les journaux qui sont faits en grand nombre. Quand je dis grand nombre, c'est 3500, 4500. Mais beaucoup d'écrits clandestins étaient faits en un petit effectif. 50, 100, 150, 300 maximum. Naturellement, on ne le faisait pas au plein jour. Hein. Certains le faisaient dans un grenier. D'autres ont tapé sur la machine à écrire. Mais la machine à écrire, on l'a cachée. Parce qu'on n'avait pas le droit d'avoir une machine à écrire à la maison. Il y en a qui ont été arrêtés parce qu'ils avaient une machine à écrire. Et on cachait le matériel soit dans le grenier, soit dans le four de la cuisinière. Et pour reproduire, on avait soit la Renéo, on reproduisait à partir d'écrits, écrits à partir d'un carbone sur une feuille avec de l'alcool. Mais il y avait aussi cette fameuse pâte à polycopier qui a posé beaucoup de questions parce qu'on ne connaît pas actuellement, on a plus ce matériau. Et d'ailleurs, il y avait un écrit qui avait été fait pour donner la recette pour faire la pâte à polycopier et comment on travaillait après dessus. Et naturellement, ce n'était pas 50 personnes qui se retrouvaient. Hein. C'était un effectif réduit. Hein. Parce que plus on se regroupait de façon importante, plus on attirait l'attention. Donc, il fallait être très, très vigilant.
Concernant les tracts, comment faisait-il pour les livrer, les diffuser ?
Les diffuser de façon soit en glissant sous la porte, soit dans le vestiaire, dans les entreprises, dans les vestiaires dans les usines. Et je relisais, là, il y a une entreprise qui s'appelle Lyotard à Saint-Pierre-des-Corps, qui avait été mise au service de l'industrie allemande. Et celui qui gérait l'entreprise s'était rendu compte que des écrits transitaient par les vestiaires. Donc, il a pris une décision que plus personne n'irait au vestiaire sans être accompagné. Et j'ai retrouvé le procès-verbal de ce qui s'est passé dans la nuit du 30 avril au 1er 1942. Et arrestation de quatre individus pour apposition d'affiches, inscriptions et de tracts. C'est le commissaire de police du 3e arrondissement, qui est de permanence, qui s'adresse à monsieur le commissaire central de police à Tours. Et il écrit « J'ai l'honneur de vous rendre compte que dans la nuit du 30 avril au 1er mai 1942, des tracts communistes ont été jetés en ville. Des affiches subversives apposées sur les murs et des inscriptions révolutionnaires faites à la peinture sur les murs, les habitations et sur la chaussée. Le service d'ordre très sévère qui avait été organisé a permis d'appréhender quatre individus pris en flagrant délit et qui ont reconnu les faits. Les quatre individus ont été pris en charge par les autorités d'occupation qui se sont saisies de l'affaire. Il s'agit de Robert Couillot, Raymond, 27 ans, né à Tours le 16 janvier 1919. Guilbeault Robert André Gaston, 22 ans, né à Châteauroux. Anguille André Roger, 22 ans, né à Aubigné dans la Sarthe. Qui ont procédé à des inscriptions à la peinture et au collage d'affiches communistes. Quatrième, Cavache Adolphe Auguste, né dans la Gironde, qui a été surpris porteur de 6 tracts communistes. Monsieur Adolphe Cavache était enseignant. Donc ce rapport a été fait, et quand on prend ce qui a été la vie des trois premiers, c'est-à-dire Robert Couillot, Robert Guilbeault, André Anguille, ils sont parmi les 5 premiers fusillés tourangeaux au camp du Ruchard. Ils ont été arrêtés parce qu'ils avaient fait des inscriptions, parce qu'ils avaient diffusé des tracts, parce qu'ils ont été arrêtés pour ça. Et ça les a conduits à être fusillés le 16 mai 1942 au camp du Ruchard. Donc le fait de diffuser un journal, de diffuser un tract, de faire une inscription, pouvait avoir des conséquences très graves.